Le 84e congrès HLM de l'Union sociale pour l'habitat, du 24 au 26 septembre 2024 à Montpellier, en partenariat avec Procivis, Salvia Développement et Sepia sur Radio Immo et Radio Territoria.
Eh bien, bonjour les amis, il est 10h18, vous êtes sur Immo et Territoria, on est ravis d'être avec vous, avec nos partenaires de Procivis, de Salvia et de Sepia. On est ravis d'être avec vous aujourd'hui, c'est la troisième et dernière journée du congrès de l'Union sociale pour l'habitat, c'est le 84e congrès. Je vous rassure, j'étais pas là au début, hein. Sinon ça serait un peu compliqué. Un très très beau congrès, blindé de monde pendant ces deux jours. Là, une troisième journée un peu plus apaisée, donc faveur des échanges. On a eu de très très belles émissions hier, merci à toutes et à tous d'avoir réagi sur notre application comme d'habitude et d'avoir téléchargé nos podcasts. On va partager cette journée avec vous. On va démarrer par une première émission, un petit magazine autour de la data. On va la data, la donnée, bien évidemment. On va en parler. C'est un peu la dent creuse, hein. On parle de données, certains en parlent, la manipulent. On ne sait pas exactement de quoi il s'agit. Je vous propose qu'on décrypte cette actualité à travers des outils plutôt ingénieux. Et d'ailleurs, on va mettre l'accent sur une entreprise qui s'est créée il n'y a pas très longtemps. Je crois que ça s'est créé pendant le Covid, il y a donc 4 ans maintenant. 4 ans, la société Udicat, avec l'un de ses fondateurs qui est sur le plateau, qui s'appelle Quentin Néant. Salut Quentin.
Salut.
Comment ça va?
Ça va très bien, merci.
Alors, donc vous allez nous raconter aussi, présenter l'entreprise. On ne va pas se priver de se faire un peu de pub quand même. Et vous avez développé un outil qui s'appelle Binéo.
C'est ça.
Vous allez nous expliquer ce que c'est. Alors, quelqu'un, on aime beaucoup FDI Habitat, tout le monde le sait, sur le plateau, avec son emblématique président Mathieu Massot, mais le non moins emblématique directeur des services immobiliers qui est avec nous sur le plateau, c'est Olivier Dumont. Comment ça va, Olivier?
Eh bien, écoutez, ça va, bonjour à tous.
Ouais, vous l'avez remarqué, un accent extraordinaire. Vous êtes du Sud, hein, c'est sûr.
On s'entend.
Merci Olivier de partager ce moment. Les services immobiliers, c'est hyper important. On va en parler justement, la donnée pour vous, c'est un peu la pierre angulaire aussi du dispositif que vous manipulez au quotidien avec vos équipes. Également, Angela Gauvin, comment ça va Angela?
Eh bien, ça va super bien. Merci pour cette invitation, je suis ravie d'être avec vous.
Gauvin, c'est la marque de champagne aussi.
Mais c'est Gauvin, G-A-U-V-I-N, j'ai vu la petite erreur.
Ah, c'est Gauvin avec
Gauvin.
Le G-A, d'accord.
C'est chevalier de la table ronde.
Oui, absolument.
J'adore
absolument. Voilà, je suis très client de la maison Gauvin, où j'achète mon champagne extraordinaire, une petite maison extraordinaire. Je vous le dis, hein, ça s'appelle Mille et Gauvin. C'est vraiment sympa. Je suis ravi de vous avoir sur le plateau.
Merci.
Vous êtes consultante en intelligence artificielle.
Oui.
Waouh, là ça claque. Et vous avez une entreprise qui s'appelle LetXB.
Alors, je travaille pour une entreprise.
D'accord. Vous travaillez pour elle, d'accord.
Oui, oui.
LetXB.
Oui,
LetXB. Votre patron, il est fan des Beatles ou...
Oui, il adore, mais surtout, il adore l'IA et les documents.
Voilà. D'accord. C'est lui l'ingénieur, le penseur de l'IA. Alors, l'IA, on va essayer de décrypter entre fantasme et réalité, hein, et essayer de replacer l'église au centre du village, parce qu'aujourd'hui, tout le monde jure par l'IA. D'ailleurs, je suis pas là. C'est mon clone numérique qui est là. Non, je plaisante. Mais on est quand même pas loin, d'essayer de replacer de comment, et on en parlait hors antenne, l'IA peut servir les clients, peut servir les usages. C'est à cela que ça sert et pas à autre chose. Donc, ça serait bien qu'on replace. Donc, je suis très content que vous soyez là, justement, pour que vous nous disiez, attendez les gars, rassurez-vous, l'IA ne prendra pas votre métier demain matin. C'est ça qu'on peut dire. Au contraire. Vous pouvez mieux travailler et améliorer votre productivité grâce à l'intelligence artificielle. Je vais commencer par Quentin.
Oui.
Alors, Binéo, c'est quoi? C'est comment? Vous avez 2 minutes.
2 minutes. Binéo, ça a été créé par du coup, la société Udicat. On est 3 associés, mais 2 associés sont très techniques. Ils ont beaucoup d'expérience dans le métier. Et en fait, le constat qu'on avait, c'était vraiment qu'en termes de décisionnel, jusqu'à aujourd'hui, à chaque fois, il fallait refaire toujours la même chose. C'était à chaque fois, on faisait un petit peu comme les ERP de l'époque, on construisait un système décisionnel sur mesure.
Alors ERP, on va traduire pour le
public. C'est un outil métier, c'est les outils. On a les ERP, on a les CRM sur la partie plutôt vente. Ensuite, on a des outils compta, des outils RH.
Ce sont des outils techniques et des outils qui pilotent la relation client, comme les outils de CRM,
c'est
par exemple.
D'accord. En fait, c'est vraiment des outils métiers qui servent pour... nous, ça génère de la donnée. Et jusqu'à présent, déjà même sur le logement social, c'était vraiment un frein parce que les bailleurs n'ont pas vraiment accès à cette donnée-là. Et ensuite, quand on veut croiser toute la donnée de tous les outils, parce qu'il y en a de plus en plus et c'est normal, on a de plus en plus d'outils métiers et l'idée, c'est vraiment croiser cette donnée-là pour pouvoir l'exploiter derrière.
D'accord.
Si jamais on veut faire ça, il faut mettre en place ce qu'on appelle un système décisionnel. Et nous, Bineo, c'est un système décisionnel, mais sur étagère. Donc, c'est-à-dire que toute la partie technique, on appuie sur un bouton, pour faire simple, et on a toute la partie technique qui est déployée. Sauf que nous, on pousse beaucoup plus loin. Et l'idée, ensuite, c'est de s'assurer que cette donnée-là est bien structurée, elle est fiable et qu'on peut vraiment l'exploiter derrière avec des vrais indicateurs, donc ce qu'on appelle aussi les KPI.
Ouais,
et
ça.
Du coup, ces indicateurs de performance, il faut qu'on ait confiance en l'information qui s'affiche. Parce que sinon, c'est très compliqué de piloter. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on permet vraiment à toutes les entreprises qui ont besoin de piloter la performance d'avoir un système qui est fait directement, donc qu'on déploie très rapidement, et ensuite de se focaliser plutôt sur vraiment la pertinence des données et la qualité de la donnée, pour pouvoir vraiment piloter.
Mais en fonction des itérations du client et de ce dont il a besoin.
Exactement. Nous,
donc,
on se base vraiment sur leurs besoins.
Ce qui veut dire que vous faites un préalable, une mini-audit ou
c'est ça.
Pour appliquer ou leur donner l'information suffisante pour qu'ils puissent de manière optimale l'organiser. Et est-ce que les éditeurs qui vous ont vu arriver, qui, à mon avis, qui n'étaient pas forcément hyper contents de vous voir arriver, des très gros du secteur, on ne va pas les citer, vous ont vu d'un bon œil. Est-ce que maintenant, quel est l'état de la relation? Est-ce qu'ils ont aussi, ou pas? Je vais vous dire pourquoi je vous pose cette question, c'est pas anodin. Est-ce qu'ils ont résisté sur le fait d'avoir une API, une passerelle sur vos outils? Vous pouvez tout dire, hein, vous êtes à la radio.
au tout début, c'était un petit peu compliqué parce qu'on était... On n'était pas connus du tout, et puis on change totalement la manière de faire.
Ils ont résisté aux API.
Ils n'ont pas forcément résisté, parce qu'en fait, voilà, ils nous regardaient un peu de travers, mais sauf qu'on a montré qu'on n'était pas concurrents. On est vraiment là pour permettre aux bailleurs d'exploiter leurs données. Donc non, on n'est pas là pour remplacer les outils.
Quand bien même fussiez-vous concurrents, si vos clients vous disent ils n'ont qu'à s'exécuter.
Oui, non, mais après.
Il y a un vrai sujet, et Olivier a bien compris pourquoi j'ai posé cette question d'ailleurs, parce qu'il fut une époque. Alors, avec votre génération, ça va mieux, où les éditeurs, en fait, refusaient carrément de faire une API. Non, ou mieux que ça. Ils oubliaient carrément de ah bah non, oui, bah ce serait, mais c'est compliqué, etc. Mais en fait, pas du tout. C'est vraiment une résistance, un peu comme quand vous transférez un compte épargne d'une banque à une autre.
Oui.
Vous voyez ? Alors, pour ouvrir un compte épargne, hein, ça prend 3 secondes, votre banquier, il vous sourit, tapis rouge, etc., il vous paye un café, ce qui est assez rare pour un banquier. Et, dès que vous voulez partir et aller transférer vos comptes, ça met 3 mois, voilà.
Champagne.
Voilà. Donc, non mais, c'est intéressant, parce que vous vous êtes imposé dans une perspective et dans des conditions qui n'étaient pas simples, il y a le Covid, et donc, vous avez permis. Aujourd'hui, vous en êtes où, donc?
Aujourd'hui, on avance très bien sur le logement social, on commence à se faire connaître, notamment via Procivis et grâce à UDI.
D'accord.
On se fait connaître de gros groupes aussi de l'immobilier.
Est-ce que vous êtes, comment on dit en anglais, break-even aujourd'hui? Vous êtes rentable?
Pas encore.
Mais ça vient.
On s'en rapproche. Après, en fait, l'innovation qu'on a, nous, c'est qu'on fonctionne avec un modèle de données. Le modèle de données, c'est ce qui est nécessaire pour créer des tableaux de bord, des rapports, des indicateurs. Et ce modèle-là, l'innovation qu'on a, c'est qu'on le veut universel. C'est vraiment l'innovation du DICAT. Donc on a commencé par le logement social, et là, on a prouvé qu'on était en mesure de récupérer ce modèle-là et de l'utiliser à chaque fois qu'on travaille avec un nouveau bailleur. Donc on connaît leurs besoins, c'était la question que vous posiez tout à l'heure. Nous, les besoins des bailleurs sociaux, on les connaît par cœur. Donc en fait, le modèle qu'on a, on peut le réutiliser pour n'importe quel bailleur, et on sait qu'on répond à leurs besoins. Et ces modèles-là, on peut les réutiliser sur d'autres secteurs d'activité, notamment quand on parle de finance, de compta, de RH, c'est toujours les mêmes problématiques. Donc de notre point de vue à nous, on peut les réutiliser partout. Donc c'est là où ça commence à avancer sur le logement social. Maintenant, tout le monde a vu ce qu'on faisait. Et on commence aussi à sortir un petit peu du logement social et aller voir
les services immobiliers, par exemple.
C'est ça.
On va poser la question au client, parce que vous avez adopté l'outil.
Oui.
Pourquoi, Olivier, vous l'avez adopté alors que vous disposez déjà d'outils informatiques?
Alors, je vais reprendre les termes de Quentin. Aujourd'hui, en effet, on a différents outils métiers, que ce soit aussi bien sûr de la gestion locative, sur du syndic ou sur même du traitement d'appel ou de flux d'appel de clients entrants. Mais chaque outil que nous avons, on peut de reporting ou en natif. Voilà. Où il y en a peu, où ils sont assez obsolètes et très limités en termes d'informations. Donc ce qui se passait bien souvent, c'est que chacun retravaillait son côté les données sur du tableau Excel.
Non.
Chacun travaillait ses données au tableau Excel avec sa propre définition de ce qu'on entendait par un taux de rotation, par un nombre de lots actifs, par différents sujets, ou par le nombre d'appels entrants. Et en fait, on pouvait se retrouver à 5 ou 6 autour d'une table pour travailler sur ces indicateurs de performance. Mais en fait, on ne parlait pas le même langage. chacun avait sa propre définition.
Bien sûr.
Voilà. Et c'est vrai que quand on travaille sur des outils métiers qui sont déployés, ils sont pas que chez FDI, ils ont plusieurs clients, pour faire évoluer ces outils, pour faire évoluer ces reportings ou ces extractions, c'est compliqué. Un, c'est compliqué. Deux, quand on a de la chance d'avoir une réponse positive, c'est très long. Et malgré ça, il faut que ces évolutions plaisent au plus grand nombre, donc on n'arrive jamais à trouver ce que l'on attend. Et c'est pour ça qu'en effet, on a commencé à travailler avec UDICAT pour déjà définir nos besoins, formaliser ces extractions ou ces reportings aux besoins donc que l'on a.
C'est un langage commun de lisibilité, quoi, vous voulez.
Totalement.
Un langage commun. Chacun adopte la même méthode, même si il y en a certains qui ont des appétences peut-être plus ou moins différentes, mais en tout cas, ça vous permet dans le reporting d'avoir une lisibilité commune. Parce que vous, en tant que patron des services, ça doit être des fois compliqué.
Oui, on ne se comprenait pas.
Et ça améliore, in fine, est-ce que ça améliore la productivité?
Bien entendu, ça améliore la productivité, puisque une fois qu'on a défini nos besoins, nos attentes, la définition et l'analyse de ce qu'on veut sur le reporting ou sur le reporting.
Vous et vos équipes.
Avec les managers. Oui, bien entendu, il faut que ce soit partagé.
Bien sûr.
Et quand je dis qu'il faut que ce soit partagé avec les managers, il faut également que ce soit partagé avec les collaborateurs.
Donc, adoption globale de l'ensemble des collaborateurs.
Oui, parce qu'en fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que l'outil métier, dans lequel on va aller chercher les informations avec UDICAT et Bineo, ne peut restituer que les informations qu'il y a dans l'outil.
Ben bien sûr.
Donc il faut qu'en effet, chaque personne qui intervient comprenne pourquoi il faut fiabiliser la donnée à l'intérieur de l'outil. Sinon, in fine, ça sera faussé. Donc en effet, le travail qu'on en a fait, c'est d'emporter l'adhésion de l'ensemble des acteurs de la chaîne de traitement. Pourquoi ? Parce qu'une fois qu'on a fait ce travail, quand on veut sortir, consolider un chiffre d'affaires, sortir des indicateurs de performance, sortir des indicateurs de taux de rotation dans le parc, on a un bouton, on appuie sur le bouton et on a le reporting. Et ça fait que tout ce qui est, moi j'appelle ça des tâches à faible valeur ajoutée, on peut en effet se délester de ces tâches pour se focaliser sur des tâches à véritable valeur ajoutée, c'est-à-dire chercher du client,
la relation
satisfaire la relation client et ainsi de suite. Voilà. D'où l'importance, c'est un gros travail d'investissement au départ, définir le besoin, un gros travail également de fiabilisation des données. Parce que par exemple sur notre outil, on avait en effet rassemblé trois portefeuilles d'entités différentes. Et il y a des redondances, le nettoyage n'avait pas été correctement fait à un moment donné. Et les premiers états qui sont ressortis, notamment grâce à Bineo, là on a pu mettre en avant des incohérences dans nos portefeuilles, des doublons, et on a nettoyé. Et aujourd'hui, quand on dit à un moment donné, quand on a des réunions ou un conseil d'administration, on dit combien vous avez de lots en gérance, on est capable de sortir, nous avons tant de lots en gérance. Mais en appuyant sur un bouton. Et c'est un gros travail de fiabilisation au départ.
Les meilleurs ambassadeurs sont les clients, toujours. Hein.
Exactement. Merci Olivier.
Non mais alors là, c'est carré de chez carré. Hein. Vous avez mille fois raison, c'est vraiment le sujet. Hein. C'est énorme. Alors là, si vous attaquez aux administrateurs de biens et aux syndics de copropriété, vous avez un boulevard devant vous. D'ailleurs, je serai vous, je communiquerai sur Radio Imo. Alors, Angela, comment ça va, Angela ?
C'est moi.
Angela, wow, vous êtes l'experte en matière d'intelligence artificielle. De quoi on parle ? D'abord, présentez-nous les TXB.
Tout à fait.
Et ensuite, j'aimerais que vous nous expliquiez vraiment de façon très basique en quoi l'IA peut-elle bouleverser nos méthodes et en quoi, finalement, on ne devrait pas tomber dans le mythe, en fait, du fantasme auquel tout le monde souscrit en ce moment. On a l'impression que c'est la quatrième révolution industrielle, etc. Si c'est le cas, dites-le nous aussi. Hein.
Pourquoi pas. Une des premières choses sur laquelle on communique, c'est que déjà l'IA n'est pas magique. Donc l'IA, c'est pas magique, ça ne va pas nous remplacer. Nous, on est les TXB experts de l'IA pour les documents. Les documents, les emails, on prend au sens large. Les TXB, c'est né, c'est issu d'un groupe d'experts de l'IA. On nous aide l'IA sur tous les sujets, parce que l'IA, on en entend partout parler, mais nous, on est vraiment experts des documents.
Mais c'est une IA générative que vous avez créée.
Oui, tout à fait.
Que vous avez entraînée, en fait. Parce qu'on m'a expliqué, hein, on crée l'outil, on l'entraîne, et plus on l'entraîne, plus il devient quasi autonome, vrai ou faux ?
Alors, Il y a du vrai, il y a un peu de faux. C'est le problème justement avec l'IA générative. Enfin, aujourd'hui, on parle beaucoup d'IA générative et on mélange les différentes IA. Et donc, il y a l'IA générative et l'IA supervisée. L'IA générative, vous n'avez pas du tout besoin d'entraîner, vous avez des résultats immédiats. Et ce qu'il y a avec l'IA générative, c'est qu'on peut avoir des hallucinations. Donc là, quand on parle de fiabilité...
Des hallucinations.
Oui, l'IA générative va potentiellement inventer un résultat. C'est-à-dire, moi, je prends mon cas de l'éthique bi. Attention, nous, c'est pas ce qu'on fait, justement.
Non, mais c'est vachement intéressant. Voyez,
ouais. Donc, par exemple, on va dire que j'ai un bail. Je veux bien m'assurer que le bail a été signé en 2019, puisque, ben, justement, à la FDI, ils ont besoin de savoir à quel moment ils ont signé leur dernier beau. Je mets une IA générative. S'il n'y a pas d'information dans le bail, elle va potentiellement inventer un résultat. Nous, avec les TixBi, on mêle IA générative et IA supervisée pour que s'il n'y a pas de résultat, je ne donne pas de résultat. Les TixBi ne donnent pas un résultat. Non, et surtout...
C'est-à-dire que l'IA générative, elle va carrément baratiner.
Mais oui, mais c'est pour ça qu'il faut faire très attention et qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'acculturation.
C'est vrai, ça ?
Oui. Alors là, ça c'est vrai. C'est pas une hallucination.
On a un cas concret, un cas vraiment concret en tête que vous avez pour illustrer
oui,
le propos.
Oui, j'en ai un plus dans le secteur immobilier social
Non mais qu'on comprenne parce que là j'hallucine.
Hein, voilà. Par exemple, c'est Habitat Territoire et Conseil HTC hein, qui fait l'acculturation et qui forme les équipes. À l'IA, et notamment à l'IA générative avec ChatGPT. En fait, il me semble que si on fait une recherche sur ChatGPT, donc qui est une IA générative, il oublie des points juridiques sur l'évolution juridique du système des bailleurs sociaux. Et donc, je crois qu'il oublie la loi Elan. Enfin, voilà, il y a des sujets comme ça qui sont oubliés. Donc, on croit qu'on nous donne une information en plus très longue sur ChatGPT,
mais comme,
qui n'a comme, pas tous
comme,
les détails.
Comme Wikipédia, dont on croit que c'est la base documentaire la plus fiable du monde.
Voilà.
Il n'y a pas plus. Enfin, je critique pas, hein, mais il y a pas plus. J'allais dire bidon. C'est pas le bon mot. Le moins approprié, parce que ce que font tout le monde, c'est que on va sur un moteur de recherche. Mm-hmm. Et Google, c'est des malins de chez malins, ils ont façonné la pensée des citoyens du monde. Et pour façonner la pensée des citoyens du monde, vous savez, les autoroutes de la recherche font que le ranking de Google et les algorithmes vous amènent là où ils veulent que vous alliez dans la recherche. Et Wikipédia, finalement, vous savez, c'est la tartine, le beurre sur la tartine. Vous savez, moins vous en mettez, plus vous l'étalez.
Vous et moi, on peut remplir Wikipédia.
Et donc, tout le monde dit, bah, Wikipédia, bah, je me documente. Donc, les mômes, aujourd'hui, les jeunes, là, de 25, 30 ans, je dis ça pour tout, ils vont sur Wikipédia, pour tout. Et là, je me dis, là, il y a un truc qui va pas. Donc, c'est intéressant aussi de voir comment on peut exercer, continuer. Donc, c'est très intéressant et merci de cette intervention. Exercer son autocritique. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que ne pas prendre forcément en compte. Dans ce que Olivier disait tout à l'heure, c'est exactement ça. J'ai des besoins, je prends l'outil et je sais comment je vais utiliser l'outil. On devrait former, hein, Olivier, les générations à avoir cette autocritique réelle.
Oui.
Parce qu'aujourd'hui, on fait un texte, on va sur le moteur, il nous sort le résultat, tu sais quoi, je le relis pas, je le mets et je l'envoie.
C'est justement toute l'interrogation que l'on a dans nos métiers avec l'intelligence artificielle, c'est de dire à un moment donné, on prend et qu'est-ce qu'on en fait ? Pour faire quoi ?
Exactement.
Parce qu'on entend tout, on entend beaucoup de choses, c'est magique, hein, bientôt, en effet, on va rentrer des données, ça va faire le métier à notre place. Et l'interrogation que nous avons dans notre groupe, c'est de dire aujourd'hui, en effet, ça doit être un axe de développement, nous aider à nous développer dans notre business, mais pour faire quoi ? Si on prend l'IA pour servir à quoi et sur quel périmètre? Parce que aujourd'hui, on le voit, notamment nous sur les gestionnaires de copropriété.
Mais vous ne servez pas l'IA, par exemple, pour parler à vos clients?
Et justement, aujourd'hui, si on écoute un peu tout ce qui se dit, quelqu'un qui nous envoie un email, on a l'IA, il va répondre à l'email. Bon. En gros, c'est ce qui se dit.
C'est possible, ça?
Oui, Nous, c'est une offre qu'on propose, mais en fait, on va limiter. On va dire qu'à 20%, on va pouvoir automatiser les réponses des communications entrantes pour des tâches chronophages. Par exemple, si...
Un exemple. J'ai une fuite d'eau.
Exactement. Là. J'ai une fuite d'eau, mais j'envoie un email depuis un email qui n'est pas référencé dans le CRM, donc l'outil de relation client. Mais j'envoie pas mon adresse parce que je suis très énervée. Eh bien, là, on peut renvoyer un email en automatique en disant « Bonjour, nous avions bien noté votre fuite d'eau, mais nous n'avons pas votre adresse, pouvez-vous nous l'envoyer ?» Donc ça, c'est automatisable. Et donc, il faut faire attention entre ce que j'automatise, on ne va pas perdre l'humain, justement. C'est pour avoir plus d'humain. Je pense qu'un des sujets...
Non, parce que les clients interrogés, 87% d'entre eux, nous disent la même chose. Mm-hmm. Ils en ont plein le dos d'appeler un téléphone qui dit « Appuie sur dièse », après t'appuies sur 1, et puis sur 1, t'appuies, etc. Est-ce que... Et puis, sans compter qu'en fait, souvent, c'est des numéros, parfois, et je l'ai vu, on a fait un dossier là-dessus, surtaxé, qui vous fait patienter 30 secondes le temps de facturer la bonne minute qui va bien, et à un moment donné... Le gars, mais il est furax parce qu'il a accès à rien. Il a accès à rien. Est-ce que cette relation, est-ce que l'IA va gérer cette relation? Parce qu'on fait de la voix sur l'IA.
Oui, tout à fait.
On fait de la voix, on fait même de l'image. Hein. On peut faire du
computer vision,
du clonage numérique. C'est des choses qui se pratiquent. Non, alors c'est bluffant. Hein. J'ai essayé puisque j'ai fait mon jumeau numérique. C'est bluffant. Okay. C'est le point, il a la voix, le geste, etc. Et on n'en est qu'au balbutiement. C'est dire ce qui pourra se produire dans quelques années. Question, vraiment, est-ce que vous pensez qu'un jour, on aura en face de... Alors, après, je demanderai à Olivier de réagir, et aussi Quentin, est-ce qu'on pourrait, dans l'absolu, dire « je suis client, je suis sur WhatsApp, là, par exemple, j'ai le visage de quelqu'un, c'est le jumeau numérique, et je peux interagir avec lui ».
Oui, c'est déjà possible, on peut interagir avec une IA. Après, c'est quelles sont les limites et quel est l'usage. Parce que c'est d'ailleurs pour ça que moi, j'aime travailler chez les Tixby, l'IA pour les documents. On est beaucoup plus terre-à-terre et moins dans l'imaginaire de rendre possible et d'avoir des usages en fait très simples. Vous parliez de tâches chronophages tout à l'heure. J'ai des tâches chronophages où je n'ai pas de valeur ajoutée. Et là, l'IA va pouvoir m'aider. Et moi, c'est plus comme ça que je vois l'IA. Aujourd'hui, comment dans un métier elle va pouvoir nous aider à être meilleur, à avoir un meilleur taux de décroché, parce que je perds pas du temps dans des emails qui servent à rien, sincèrement, mais je perds pas de l'humain, justement. Je vais optimiser l'humain. Nous, on a une interface homme-machine qui permet aussi d'avoir des meilleurs résultats. Ou quand
home
on a
machine.
Homme-machine, voilà, IHM, interface homme-machine, où l'IA et l'être humain se rencontrent pour aller vers l'excellence opérationnelle. Alors, c'est des beaux mots, c'est du marketing, mais c'est une réalité, c'est possible. Et parce que l'IA n'est pas magique, et qu'aujourd'hui, avec certains procès, avec de l'IA, on peut être plus performant qu'un humain. Mais sachez que là, on rend beaucoup de projets en production, et on a nos clients qui nous disent « Ah oui, mais 95%, moi, je voulais du 100%. » Alors là, j'ai envie de vous dire, au-delà de que l'IA n'est pas magique, on n'est pas dans un monde parfait. L'humain fait des erreurs, par exemple, sur des tâches chronophages de documents.
Pratique.
Pratique.
Mais pas magique.
C'est ça. Pratique, pas magique. Plus performant que des opérateurs opérationnels. Hein. Par exemple, on va vérifier des attestations d'assurance habitation. C'est un document ultra simple. Vous allez me dire, non, mais c'est trop facile. Moi, j'en prends, je l'ai fait, ça va. Non, mais quand il y en a 100 000 à l'année et que la personne a fait que ça, eh ben, aujourd'hui, on est à 80% de performance.
Et d'ailleurs, il y a des sujets. Alors justement, l'IA, chez Udicat, est-ce que vous l'utilisez?
On ne l'utilise pas, mais par contre, c'est en projet. Parce que nous, vu qu'on traite toutes ces données, on permet de la fiabiliser. On a énormément de données. Du coup, les bailleurs ont énormément de données. Et nous, avec cette donnée-là, l'objectif qu'on a, c'est d'ensuite pouvoir proposer un petit agent où là, on pourrait poser une question. Sors-moi le tableau de bord de la vacance. Et là, du coup, l'IA générerait un tableau de bord de la vacance directement avec toutes les infos qui sont pertinentes.
Là, ça tient la route. Hein.
Oui, bien sûr.
Là, ça tient la route, du coup.
Là, on est toujours d'aller chercher de la valeur ajoutée sur un outil.
Bien sûr.
Oui, bien sûr.
Bien sûr. Alors, dernière question pour vous trois, justement. Pourquoi vous êtes venu au congrès HLM, Jenna?
Parce qu'on a beaucoup de clients bailleurs sociaux et qu'ils sont très très intéressés par nos travaux, puisqu'on va pouvoir traiter autant des documents sur la partie locative que patrimoine. Avant même de mettre des données dans Udicat, bah, souvent les données sont dans des documents. D'accord. Et donc nous, notre objectif, bah, c'est de transformer les données des documents en flux pour après pouvoir les analyser, mais faire des travaux.
Est-ce que vous vendez un outil ou est-ce que vous êtes plutôt conseil sur les outils ?
Non, nous on vend un outil. Hein. L'Ethicsbee, c'est un outil, c'est des modèles d'IA qui sortent les données attendues des documents et parfois aussi la possibilité d'avoir un outil qui renvoie
donc,
des...
complémentarité avec Bineo. Votre modèle économique, c'est quoi ? C'est de l'abonnement ?
Oui, exactement.
On s'abonne
J'ai un volume de documents à traiter, un volume d'emails à traiter à l'année. D'accord. Et puis, je vais avoir un prix en fonction de ce volume.
Ingénieux. L'URL ?
LetXBE.
L-E-T-X-B-E.
.ai.
.ai. Voilà, tout ça, c'est pour Jason. Pour mettre l'adresse de l'URL, UD4. Adresse du site ?
UD4.fr.
Voilà, UD4.fr et bien sûr FDI Habitat.
Moi, c'est FDI Group même. FDI, c'est plus large que
FDI,
ça. Hein.
Oui, FDI Group.
C'est FDI.fr.
Voilà, FDI.fr. Bien évidemment, je vais vous proposer pour conclure cette table ronde un petit jeu. Est-ce que vous êtes d'accord ?
Oui.
Un jeu sympathique. Je vais vous demander à chacun de choisir un mot, un adjectif, n'importe lequel, spontanément, qui illustre les propos qu'on a changés. Mais un seul mot. On va commencer par vous, Olivier.
Service client.
Non, mais un seul mot.
Alors, bonsoir.
Lequel ?
Client.
Client. Angela.
Qualité.
Qualité.
Performance.
Pas mal. Les clients en recherche de la qualité en adoptant une performance adaptée à leurs besoins. Ce sera la conclusion de notre table ronde. J'étais ravi de vous voir tous les trois. Pour qu'on se revoie, faites de la radio, hein, de plus en plus. On est ravi d'avoir partagé ce moment avec vous. Merci Angela Gauvin. Alors, je rappelle que vous êtes consultante en intelligence artificielle. Alors, je le dis pas en anglais parce que vous avez un.
Ah oui,
alors,
c'est bon.
Voilà. Et vous déployez donc votre action sur le territoire national. On est d'accord ?
Exactement.
Vous bougez un peu partout et vous représentez donc la structure qui s'appelle LetXBE. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Merci Olivier Dumont, patron des services, directeur des services immobiliers chez FDI Habitat. Merci d'avoir partagé ce point. Extrêmement pragmatique d'ailleurs. Je pense que vos collègues administrateurs de biens comme ça, Nico Pompoutier, ont très bien compris le sens de vos propos. On va vous souhaiter longue vie avec UD4. Quentin Néant, voilà, le cofondateur d'UD4 avec l'outil Bineo. Je pense que ça se passe plutôt bien. Donc, ce qui démontre que votre idée était, on va dire, performante, mais aussi ingénieuse. Je rappelle quand même que lorsqu'on a 30 ans et qu'on crée une boîte en plein Covid, d'accord, en France, on peut dire qu'elle a un incroyable talent, cette France qui est représentée par votre génération. Donc, bravo d'avoir entrepris, parce que vous êtes ingénieur de formation, vous aurez très bien pu travailler dans une grande boîte automobile, etc. D'ailleurs, vous l'avez certainement fait. Et vous vous êtes dit, c'est pas grave. Je me lance avec toute l'incertitude et la solitude que représente l'entrepreneuriat et de se dire, voilà, j'ai le courage de le faire. Bravo.
Et grâce à mes associés, voilà. Que je remercie énormément.
Ils s'appellent comment vos associés ? On va les citer.
On a Sébastien Fantini et on a Steve Carbonaro qui sont excellents. Et voilà. C'est grâce à eux qu'on est aussi dans cette aventure.
Voilà, Sébastien et Steve, si tu nous entends, voilà. Bravo. Vous allez réussir, c'est bien, avec l'intelligence d'une Angela Gauvin pour nous guider dans les méandres de l'intelligence artificielle et l'expérience pratique et pragmatique d'un Olivier Dumont. Merci à tous les trois, vous représentez assez bien ce que doit être l'avenir de notre profession, des métiers de l'immobilier. Bravo. Alors, on va se retrouver dans quelques instants pour la prochaine table ronde. Il est 10h46.
Le 84e congrès HLM de l'Union sociale pour l'habitat du 24 au 26 septembre 2024 à Montpellier en partenariat avec Procivis, Salvia Développement et Sepia sur Radio Immo et Radio Territoria.